Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Qui ne connaît ces paroles devenues célèbres? Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et on les a souvent interprétées comme une justification de la séparation de l'Église et de l'État. La séparation entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, entre le politique et le religieux. Et dans un sens, dans l'histoire humaine, c'est vrai qu'une séparation, on peut dire, serait souhaitable. Lorsque l'on regarde les églises institutions qui viennent s'immiscer dans les affaires de l'État et prennent des positions dogmatiques qui vont à l'encontre du message du Christ, qui est amour et miséricorde, les dérives de l'intégrisme religieux sont souvent la source de conflits dans nos sociétés. Regardez l'Église orthodoxe russe qui soutient ouvertement la guerre en Ukraine, l'Église catholique romaine qui, en présentant les croisades comme la délivrance des lieux saints, a perpétré des meurtres et des pillages. Je ne parlerai pas de l'Inquisition, qui ne fut pas un modèle de miséricorde et de compassion. L'islam aussi ne fait pas exception dans les pays qui appliquent les lois islamiques à la lettre pour gérer l'État. Et tout dernièrement, je vais lire les propos du pape François assimilant les médecins qui pratiquent l'avortement à des tueurs à gages. Ça montre bien la difficulté à transmettre le message du Christ dans notre monde. Mais réciproquement, peut-on dire, les États ne sont pas toujours corrects non plus lorsqu'ils veulent s'immiscer dans et régenter les pratiques religieuses. Mais revenons au passage que nous venons d'entendre, qui suit la parabole des invités aux noces du fils d'un roi, et ceux-ci refusent l'invitation et s'excusent avec des arguments bidons. Elle précède elle-même la parabole des vignerons homicides, qui plutôt que de rendre aux propriétaires le fruit de la vigne qui leur a été donnée en fermage, et dont ils sont les ouvriers, vont jusqu'à tuer le fils du propriétaire pour s'approprier ses biens. Et les grands prêtres et les scribes qui assistaient à l'énoncé de ces paraboles se sont sentis concernés. Ils sentent bien que les exemples du Christ, c'est à eux en premier lieu qu'ils s'adressent. Leur orgueil est touché et ils n'acceptent pas les paroles du Christ. Ils voient aussi que le Christ est suivi par le peuple et ils sont inquiets que le pouvoir qu'ils ont sur celui-ci ne soit mis en péril. Ils vont décider alors sournoisement de tendre un piège à Jésus, en le flattant d'abord, pour ne pas aller contre la foule. Et pour ce faire, ils s'unissent aux Hérodiens. Alors les Hérodiens étaient associés au pouvoir politique en place, et ils soutenaient le roi Hérode Antipas, qui régnait au nom de l'Empire romain comme souverain sur une grande partie du territoire juif au temps de Jésus. Aux yeux des pharisiens, cette position en faveur d'Hérode compromettait l'indépendance juive et il les voyait un peu comme des collabos. Mais cependant, l'un et l'autre voyaient en Jésus une personne dangereuse pour leur pouvoir. Et en plus, les pharisiens, vous avez entendu, ils n'osent pas aller eux-mêmes poser la question à Jésus. Ils envoient leurs disciples avec les Hérodiens. Et ils commencent en flattant d'abord l'intelligence et les paroles et les actes du Christ. « Maître, nous savons que tu es véridique et que tu enseignes le chemin de Dieu en vérité et que tu ne te laisses pas influencer par personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes, c'est-à-dire leur position sociale ou l'image extérieure qu'ils donnent d'eux-mêmes. » Et vient alors la question piège. « Dis-nous donc ton opinion. » Est-il permis ou non de payer l'impôt à César? Puis dire que c'est un sommet d'hypocrisie qui montre bien toute la perversité des Hérodiens et des pharisiens. Jésus n'est pas dupe. Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve? Hypocrite, leur dit-il. Et pourquoi les traite-t-il d'hypocrites? Parce qu'il commence en énonçant des vérités pour mieux les poser le piège. Maître ou rabbi, ils reconnaissent son statut. il voit qu'il sait de quoi il parle. Tu es véridique, tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne. Tu ne regardes pas les apparences des hommes. Et ils auraient pu ajouter, mais leur cœur. Ils vont dans le sens du Christ pour ne pas vexer le peuple. Mais ils ne croient pas un mot de ce qu'ils disent. Et c'est précisément dans ces paroles-là, qui sont absolument justes, que se situe l'hypocrisie. La question posée est aussi une question fermée. Ils attendent une réponse, oui ou non. Mais si la réponse est oui, les Hérodiens seront satisfaits, mais le peuple sera déçu. Et le Christ perdra son image de Messie, l'envoyé de Dieu qui vient sauver Israël du joug romain. Si la réponse est non, les Hérodiens fileront prévenir Hérode que Jésus est un opposant, un fauteur de troubles à mettre hors d'état de nuire. Dans la question des pharisiens, il y a trois points. Le premier, c'est « est-il permis ou non ?» Et ainsi, implicitement, ils font appel à une interprétation du Christ de la loi de Moïse. Le deuxième point, c'est de payer l'impôt. C'est une question qui occupe souvent les hommes, même encore aujourd'hui, où on se pose la question de la légitimité de l'impôt. Et le troisième, c'est à César, c'est-à-dire à l'occupant. Et Jésus va les prendre à leur propre jeu. Montrez-moi la monnaie de l'impôt. Il va donc se baser sur des faits incontestables pour mettre en évidence leur duperie et passer un message à l'assistance et aussi pour nous aujourd'hui. Il sort donc une pièce d'un denier de leur poche. Et Jésus leur demande de qui est l'image, de qui est l'effigie sur la pièce. Et eux répondent, de César. Ils n'ont pas d'autre choix, c'est une évidence. Et vient alors la sentence, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. On peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'on doit rendre, soit à César, soit à Dieu? Eh bien, on doit rendre, les fruits de ce que nous avons reçu. César est un empereur, on pourrait dire un roi aujourd'hui aussi, un chef qui doit prendre soin de son peuple. Et César nous donne l'organisation de l'État, la protection militaire, la justice, les routes, l'éducation, la protection sociale, en somme, toutes les fonctions régaliennes d'un État. Et cela, dans le but de nous permettre de grandir, de nous éduquer, de commercer, de nous déplacer en toute sécurité, d'être soignés, rajouterait aujourd'hui de recevoir une pension, bref, de produire des fruits, et une partie de ces fruits, il nous est demandé de les confier à l'État, pour participer à son et à notre développement. C'est le rôle, en somme, de l'impôt. Quoi qu'on en dise, c'est un cercle vertueux. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Nous pouvons contester la façon dont notre impôt est fixé et utilisé, mais ça, c'est un autre problème. Le Christ va expliquer cela d'une autre façon dans différentes paraboles. Et c'est souvent le même canevas. Un propriétaire possède un bien qu'il va confier à des intendants. C'est quelqu'un qui reçoit quelque chose. L'intendant, c'est quelqu'un qui reçoit quelque chose qui ne lui appartient pas et à qui il est demandé de le faire fructifier et de remettre une partie du fruit de son travail au propriétaire. On a l'impression, finalement, que César et Dieu ont un projet similaire. Et ces deux projets cohabitent dans un même monde. Il y a un propriétaire ou une autorité qui donne et des intendants qui utilisent ces dons pour les faire fructifier. Quel que soit le système étatique, capitaliste ou communiste, ou bien l'Église, c'est le même principe. Le Christ, par sa sentence, ne nous demande pas de prendre position pour l'un ou l'autre, mais de rendre à chacun ce qui lui revient. Ce qui change, c'est ce que nous sommes invités à rendre au propriétaire. Ce qui donne la valeur à une monnaie, ce n'est pas que son poids en or, mais c'est l'image de son propriétaire, l'effigie qui est sur la pièce. Et on peut dire qu'avec la monnaie aujourd'hui, les billets, c'est d'autant plus vrai, parce que le billet en lui-même, la matière qu'il y a dedans, ça ne vaut quasiment rien. Et donc, ce qu'il y a dessus, c'est le symbole de la puissance du chef ou de l'État. Et le symbole de la puissance de Dieu, c'est son image qu'il a déposée dans le cœur de l'homme. Faisons l'homme à notre image. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, est-il dit dans la Genèse. Dieu est amour. S'il nous a fait à son image, c'est que ce talent, cet héritage qu'il nous a donné, est bâti sur l'amour. Notre vocation, ce que nous sommes invités à rendre à Dieu, c'est son amour que nous faisons fructifier en le répandant autour de nous. L'amour, c'est la seule chose qui grandit lorsqu'il est partagé. Notre vie de chrétien se vit dans des réalités terrestres, mais en les éclairant avec la lumière divine qui nous habite, nous pouvons bâtir le royaume d'amour de Dieu. Ce n'est pas sans lui, mais avec lui. On ne vit pas dans un état en faisant fi de son dirigeant ou de ses dirigeants. C'est avec lui ou avec eux que nous bâtissons la prospérité, la grandeur de l'État. Et plus nous, on va travailler en synergie avec Dieu, sous la guidance de son Fils, le Christ, et de son Esprit Saint, et plus nous devenons semblables à Dieu, et nous préparons à participer à sa vie divine, à entrer dans la joie de notre Maître. Père Alphonse et Rachel écrivaient, « La seule vocation de l'homme, c'est d'aimer. » Si l'homme est à l'image de Dieu et fait pour lui ressembler, c'est que le fond de l'homme est amour et sa destinée, c'est d'aimer toujours plus. Si la monnaie de César, ce sont les pièces frappées à son image, la monnaie de Dieu, c'est l'humanité qui aime comme lui nous aime. À lui soit honneur, gloire et louange au siècle des siècles.